une vue d'ensemble de l'actualité.
Ce qu'on veut faire, c'est d'ajouter beaucoup de ressources dans les CHSLD et les résidences de personnes âgées. Donc, il y a trois groupes de personnes qui rentrent et qui sortent des résidences. Il y a le personnel, il y a ceux qui viennent livrer la nourriture, puis il y a, bien sûr, les résidents eux-mêmes. Donc, ce qu'on veut, là, c'est qu'il y ait plus de contrôle.
Trêve PM.
Et pour qu'il y ait plus de contrôle, le gouvernement Legault a annoncé aujourd'hui 133 millions de l'argent qui doit servir notamment à embaucher du personnel. On s'en va rejoindre Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants. Bonjour Marguerite.
Bonjour Bernard, je me permets.
Ben oui, c'est très bien. Alors 133 millions, oui. Donc évidemment les résidences privées, CHSLD privées non conventionnées, ressources intermédiaires, ils ont des dépenses supplémentaires, notamment des personnes pour assurer la sécurité, la garde, mais plus que ça, hein, des personnes qui pourraient par exemple être appelées à livrer les cabarets de nourriture aux chambres pour éviter que les aînés se promènent dans la résidence, etc., etc.
Absolument. Puis il faut pas oublier non plus les ressources de type familial, là, parce que ça fait partie aussi des résidences qui sont visées par le 133 millions. Donc, ça peut servir à embaucher du personnel, à payer des heures supplémentaires, parce qu'il y a des gens qui font du temps supplémentaire et les propriétaires n'ont pas forcément les moyens de pouvoir les payer autant. De faire en sorte aussi d'acheter du matériel de protection pour le personnel, des désinfectants, des agents de sécurité. Il n'y a pas une obligation pour les agents de sécurité, mais les propriétaires ont quand même l'obligation de s'assurer que les portes d'entrée puis de sortie, là, on commence pas à se faire, à sortir, à rentrer puis à faire des fêtes, là. C'est leur obligation de propriétaire. Alors, si c'est difficile pour eux autres, parce qu'on connaît les résidences, il y a de petites résidences, il y en a de plus grosses, hein, volumineuses, plus de 200 personnes. Donc, ces sommes d'argent vont servir à pouvoir embaucher du personnel.
L'objectif aussi, Marguerite Blais, c'est de faire en sorte que les dépenses supplémentaires encourues par les propriétaires des résidences privées ne soient pas refilées aux résidents. Donc, vous voulez, à travers cette aide-là, dans le fond, soulager un peu les résidents, parce que sinon, il risque d'y avoir une augmentation du loyer éventuellement, là.
Ben oui, puis tu sais, quand on apprend des histoires, comme il y a des résidences qui chargent 7 $ pour aller porter un cabaret à la chambre, là, la réponse est non, là, c'est inacceptable et on n'accepte pas ça au gouvernement. Donc, c'est pour les aider dans ce sens-là, parce que évidemment, en allant porter les cabarets, ben ça demande plus de temps, plus de ressources, c'est plus difficile. Les propriétaires, puis c'est pas bon pour nous non plus si un propriétaire décide de fermer ses portes parce qu'il est pas capable d'arriver, là.
Non, c'est sûr,
alors, on a l'obligation de soutenir les propriétaires des résidences privées. Il y a environ 140 000 personnes qui résident dans les résidences privées au Québec. Il y en a 1791. Alors, on a cette obligation-là et tous les CIS et les CIUS sont en contact étroit presque quotidiennement, peut-être aux deux jours, là, avec leur propre résidence, leur propre réseau, pour faire en sorte que les choses se déroulent correctement, calmement, que les propriétaires puissent obtenir les services dont ils ont besoin.
OK. Quelle garantie pouvez-vous nous donner, Marguerite Blais, que les 133 millions vont être bien dépensés, qu'il n'y aura pas de l'abus? Parce que on le sait, là, ça va vite présentement, là. Les gouvernements sortent les programmes, puis ils veulent pallier au plus urgent. C'est sûr que dans ce temps-là, il y en a qui peuvent s'essayer, puis qui peuvent essayer d'abuser du système.
Ben là, premièrement, on demande à tout le monde de conserver les factures. Il va falloir que les factures soient conformes à ce que le gouvernement, à les consignes du gouvernement par rapport aux dépenses. Alors, vous gardez vos factures parce que quand la pandémie de la COVID-19 sera terminée, on appelle ça une reddition de compte.
Ben oui, mais
c'est
ça.
Ils vont devoir rendre des comptes. Puis s'il y a des gens qui ont pris l'argent pour faire autre chose, ben ils vont devoir rembourser le gouvernement.
Oui, mais ça, c'est si.
C'est une aide d'urgence là, exceptionnelle. Là. Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor, a été très, très, très rapide. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, parce que vraiment, là, les appels téléphoniques, les messages, les propriétaires avaient besoin vraiment là, d'avoir un peu de oomph, là.
Un petit peu d'oxygène. Un petit peu d'oxygène. Bon, OK. Là, vous avez accepté, Marguerite, vous n'avez pas peur du public en général. Alors, vous avez accepté de prendre quelques appels. 790-9850, 98985, Drainville à commercial, 985FM.ca. Puis, je vous le dis d'emblée, l'objectif avec Marguerite Blais, c'est pas de parler seulement là, des sous qu'elle a annoncés aujourd'hui. Elle est très proche des aînés. Et l'une des questions, moi, que j'ai le goût de vous poser, Marguerite Blais, puis si vous avez d'autres questions, les auditeurs, là, allez-y, là, 790-9850, si vous avez le goût de parler avec Marguerite Blais, de lui poser une question, c'est le bon moment. La question que j'ai le goût de te poser, Marguerite, c'est qu'est-ce que tu dis à un aîné qui veut rien entendre?
Ah là 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 là, je l'ai entendu celle-là, hein, même par des enfants qui appellent leurs parents, puis mon père veut pas écouter, mon père dit de toute façon, à l'âge où je suis rendu, mourir de ça ou mourir de quelqu'un d'autre. Alors moi, ce que je réponds à cette personne-là, c'est que quand on est une personne âgée, on peut développer plus rapidement des complications et c'est là où on devient beaucoup plus vulnérable. Mais c'est pas parce qu'on est une personne âgée qu'on a le plus, c'est qu'on est plus à risque que quelqu'un d'autre. Mais on peut avoir, une jeune personne peut avoir le symptôme puis le donner à la personne âgée et vice-versa. Et vice-versa. Donc, moi, je dis à cette personne, vous savez, par respect, par solidarité et aussi parce que votre liberté s'arrête quand celle d'une autre personne est en face de vous, s'il vous plaît, respectez les consignes, prenez une distance physique, lavez-vous les mains. Si on vous demande de rester à l'intérieur de vos résidences, c'est justement pour faire en sorte de protéger l'ensemble des personnes qui résident dans ces résidences-là et l'ensemble du personnel. Le personnel, ces gens-là ont des familles aussi, hein. Et c'est par respect, les gens n'ont pas l'impression que le virus existe parce qu'il est invisible.
Ah, ça aussi, tu savais.
C'est tant et aussi longtemps que le virus ne les a pas atteints parce que ça fait mal, les gens ont l'impression que c'est pas pour moi, c'est pas vrai.
Mais
quand je lis dans les journaux, là, qu'il y a encore des gens qui vont dans des résidences privées, là, les résidents, puis qui vont dans la piscine à plusieurs, ben, ils ont pas compris.
Mais non, ils n'ont pas compris. Mais non, ils n'ont pas compris, Marguerite.
C'est pas
c'est
le temps de faire des bingos, puis c'est pas le temps de faire des jeux de cartes.
Mais je retiens ton argument, Marguerite Blais. J'aime beaucoup ça quand tu dis à une personne aînée, c'est vrai que vous pourriez en mourir, puis que vous êtes plus à risque. Fait que là, vous vous dites, ben, de partir avec ça ou partir pour une autre raison, je vais finir par mourir de toute façon. Mais là, vous ajoutez, oui, mais attention, tu pourrais la transmettre à ton fils, à ta fille, à ton petit-fils, à ta petite-fille. Pense pas juste à toi. Dis-toi pas juste, je vais finir par mourir anyway. Mais dis-toi que tu pourrais rendre malade quelqu'un que tu aimes profondément puis qui, elle, est pas en fin de vie, là. Elle est en début de vie, là.
Absolument. Puis vous savez, Bernard, toutes nos valeurs vont changer, là, après cette histoire-là. Là, on était vraiment dans une société très individualiste. Et puis, on était toujours avec nos technologies de communication tout le temps. On ne se parlait plus en face à face. Là, on est obligé de ne plus se parler en face à face avec les technologies de communication. Mais je pense que ça va changer la donne au niveau de la solidarité et de nouvelles façons de communiquer avec les gens. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un très grand mouvement qui va se faire.
On va le voir.
On va développer peut-être le bénévolat chez les jeunes.
Peut-être.
Aussi, là,
peut-être.
Je le souhaite.
Là, j'ai François qui m'appelle. Bonjour, François.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, la question est la suivante. On a eu vent que dans certaines résidences au Québec, on permet encore aux personnes âgées de prendre leur voiture pour faire un petit tour. Puis tout ce que les personnes âgées ont besoin de leur dire, c'est « je sortirai pas de ma voiture, mais je vais aller faire un petit tour avec ma voiture pour revenir ». Est-ce qu'on peut croire que c'est vrai?
Ben, ils sont pas supposés de faire ça. Ce qu'on a dit comme consigne, c'est que vous pouvez aller prendre une marche, mais avec une supervision. Qui dit que la personne qui prend sa voiture est pas arrêtée à quelque part?
Ben.
Il n'y a rien qui nous prouve que la personne ne s'est pas arrêtée et qu'elle n'est pas rentrée au supermarché ou dans une pharmacie ou je ne sais pas où. Alors, ce n'est pas les consignes qu'on a données, ça. On a dit aux propriétaires de résidences privées pour aînés, Oui, c'est bon de prendre une marche parce qu'on va aller s'oxygéner, garder une distance physique, puis vous allez y aller sous supervision. C'est pas parce qu'on veut traiter les aînés comme des enfants, là. C'est pas de l'âgisme qu'on fait, là. C'est de la protection. C'est une question de vie ou de mort. Alors là, okay. Cette histoire-là, je l'avais jamais entendue, mais là, non, ils peuvent pas partir avec leur automobile.
Merci François pour l'appel. Agathe, bonjour.
Bonjour, je voudrais avoir un renseignement. J'ai une de mes tantes qui était supposée de déménager au mois d'avril dans une résidence le 1er avril.
Oui.
Elle est obligée de retarder son déménagement à cause de la pandémie.
Mm-hmm.
Et puis, elle se trouve pénalisée parce qu'elle va être obligée de payer deux loyers.
Mm-hmm.
Le loyer à la résidence et le loyer qu'elle habite présentement.
D'accord.
Je voudrais savoir comment ça peut s'arranger pour qu'elle ne soit pas obligée de payer son loyer.
Qu'elle ne soit pas pénalisée. Merci pour l'appel, Agathe. Marguerite?
Ben, j'ai pas de réponse précise, sauf que c'est vrai que ça va arriver. Puis les questions de déménagement, c'est une question extrêmement, complexe, parce qu'il y a des personnes qui seront obligées de déménager. Je donne un exemple, tu habites dans une résidence privée pour aînés, tu perds de ton autonomie, il faut que tu déménages dans un lieu où il y a plus d'autonomie, donc tu dois déménager, ou tu as des gens qui déménagent d'une région à une autre, alors qu'on dit qu'il faut pas aller d'une région à l'autre. Je crois qu'on devrait pas déménager quand on n'est pas obligé de déménager et qu'il faudrait avoir beaucoup plus de souplesse. Là. Mais j'ai même entendu une histoire comme quoi quelqu'un devait déménager et parce qu'elle retarde son déménagement, les déménageurs lui facturent pour 140 $ parce qu'elle a changé la date de son déménagement. Ben, je trouve que en temps de pandémie, c'est pas la façon d'agir là qui s'appelle solidarité. Là.
On s'entend là-dessus, Marguerite Blais. Bonne suite des choses. C'est pas évident d'être dans un gouvernement quand on vit ce qu'on vit présentement. On aura l'occasion de se reparler, Marguerite Blais, parce que la question des aînés, évidemment, on va continuer à s'en occuper. Hein?
Oui, puis je vous félicite, Bernard, pour l'excellent travail que vous faites. J'en parle aux médias aujourd'hui parce que on oublie que vous faites aussi un travail essentiel, le travail de la communication. Et moi, je considère que la radio, c'est l'un des plus beaux moyens de communication. Et continuer à marteler qu'il faut rester à la maison, qu'il faut rester à la maison, qu'il faut rester à la maison. Et continuer votre excellent travail de communicateur à vous et à toute votre équipe.
Merci, Marguerite Blais. À la prochaine.
Au revoir.
Dans un instant, une étudiante à qui on a parlé, qui était en Bolivie et qui est de retour.